Radio Okapi.
Bougoussa, Tchengerero, Tchea, Mbouzi, ces localités du territoire de Rutshuru sont de nouveau sous le contrôle des FARDC à la suite d'une offensive lancée contre les rebelles du M23. 25 cas de peste bubonique, dont 2 décès dans la zone de santé Réti, épicentre de cette maladie dans les territoires de Djougou. Parmi les malades, composés essentiellement des enfants, 22 et plus de 1700 cas contact sont sous surveillance, indique le chef de la division provinciale de la santé à Bounia. Clôture hier à l'université de Lubumbashi du colloque sur les 7 ans d'existence de la Cour constitutionnelle. Nous en parlons avec le professeur Jacques Djoli, l'un des orateurs de ces assises. Bonjour à tous. Ouvrons cette édition au Nord Kivu. La région de Bougoussa, Tchengerero, Tchéa, Mbouzi sont à nouveau sous contrôle des FARDC depuis tôt ce mercredi. C'est à la suite d'une offensive lancée par les FARDC en vue de neutraliser les rebelles du M23. La société civile de Rutshuru et de Djomba affirme que l'armée pilonne depuis le matin les collines de Runyoni et Tchanzu en vue d'y déloger ces rebelles du M23 qui occupent cette région stratégique depuis au moins 2 semaines. Le point avec Sifa Maguru.
Des bombardements se font entendre depuis tôt ce mercredi dans cette région de la vallée au pied des collines. La société civile de Rutshuru indique que les rebelles du M23 se sont d'abord retirés sans accrochage dans les localités de Tchéa, une partie de Tchengerero et un peu plus loin. C'est au niveau de Mbouzi en montant vers Gassizi pour atteindre Runyoni et Tchanzu que les deux parties se sont affrontées violemment pendant que les troupes des FARDC étaient appuyées par des frappes aériennes. La société civile de la région salue cette progression de l'armée et espère que leurs positions seront consolidées pour favoriser le retour de la population. Côté Bunagana, vers la frontière avec l'Ouganda, c'est l'accalmie ce mercredi. Les habitants tentent d'évacuer à leurs activités socio-économiques pendant que l'on assiste à des mouvements de va-et-vient de certaines familles entre l'Ouganda et la RDC. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
En Ituri, certains déplacés commencent à regagner leur village d'origine et à vaquer à leurs activités champêtres dans les chefferies des Banyari Tchabi et Baema Boga au sud du territoire d'Irumu. Selon les acteurs de la société civile de ces entités, c'est les résultats des opérations conjointes FARDC armée ougandaise contre les rebelles des ADF. Cependant, ils demandent à ces deux forces d'intensifier ces opérations pour chasser ces rebelles qui occupent encore certains villages. Isaac Remoyope.
Une accalmie s'observe aussi d'Irumu depuis le lancement des opérations militaires par les FARDC et l'armée ougandaise contre les rebelles des ADF, ce qui encourage les retours de la population, notamment au village de Kinyanjojo, Nyakatale et Ruzinga dans la chefferie de Baema Boga. La société civile locale indique que les habitants se rendent également dans leurs champs, mais pas en profondeur dans la forêt où ces rebelles sont encore visibles. C'est notamment au village de Malaya, Bulei et Mugwanga qui sont quasi déserts. Le président de la société civile de la chefferie de Baema Boga, Albert Baseke, demande aux forces conjointes d'intensifier les attaques contre les positions de ces rebelles.
Malgré les opérations conjointes, il y a encore la présence de l'ennemi qui se fait voir. Vous savez, comme l'avant-hier, on les a vus dans des villages périphériques de 3 km, 5 km du centre.
Dans la chefferie voisine de Banyari Tchabi, la population est concentrée essentiellement au chef-lieu de la chefferie, affirme le président des jeunes. D'autres groupements, dont Boyo et Tondoli, sont encore occupés par ces ADF, ce qui empêche la majorité de la population de cette chefferie de regagner son millier. Le porte-parole des FARDC en Ituri indique que les opérations militaires sont en cours aussi de Dirumu pour pacifier totalement la région, le lieutenant Gilles Ngongo.
Nous comprenons leurs soucis, nous sommes dans des opérations. Là où l'ennemi sera localisé, nous allons frapper fort.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au sud Kivu, une accalmie s'observe dans plusieurs parties de la province depuis quelques mois. Des hauts plateaux de Kalehe à Walungu, en passant par la plaine de la Ruzizi, la population témoigne de l'absence des armes qui favorise un retour aux activités champêtres. La plupart des combattants de groupes armés et d'autres jeunes à risque sont réinsérés grâce au programme des réductions des violences communautaires de la MONUSCO. Le point avec Emmanuel Elamejo à Kabidi.
Le territoire de Kalehe vit son accalmie totale depuis quelques mois maintenant. Les hauts plateaux de Ziralo et Numbi, à Bunyakiri et les alentours du parc national de Kahuzi-Biega, autrefois théâtre des affrontements, retrouvent leur calme. Aucun groupe armé local ou étranger n'est opérationnel à ce jour dans cette partie du Sud Kivu. Monsieur Dédé Mwamba, administrateur de Kalehe.
La situation est vraiment calme puisque bon, il y avait beaucoup de notables qui se sont donnés pour une campagne. À côté de cela, des FARDC. Alors, beaucoup de hommes voulaient vraiment déposer les armes. C'est ainsi que il y a certains qui se sont réellement rendus puisque il n'y a pas une raison de rester encore en brousse.
La même accalmie est observée dans la région de Walungu et Shabunda. La plupart des jeunes ex-combattants ont adhéré à la sensibilisation et se sont rendus. La MONUSCO Sud Kivu, avec son programme de la réduction des violences communautaires, a réinséré des centaines de jeunes. La mission onusienne leur offre des activités génératrices de revenus comme la formation professionnelle, l'adduction d'eau potable et l'éclairage public par des lampadaires. Beaucoup d'autres disent attendre le PDDRCS pour quitter définitivement la brousse. Emmanuel Elamijo Akabedi, Bukavu Radio Okapi.
En santé, la province de l'Ituri a notifié 25 cas de peste bubonique, dont 2 décès dans la zone de santé Réti, épicentre de cette maladie dans le territoire de Djougou. Parmi les malades composés essentiellement des enfants, 22 et plus de 1700 cas contacts sont sous surveillance, a déclaré mardi le chef de la division provinciale de la santé à Bounia. Docteur Louis Tchoulou indique que 12 zones de santé, notamment dans les territoires de Djougou, Mahagi et Arou, sont affectés par cette maladie transmise par les rats porteurs des puces. Il appelle la population à observer les normes sanitaires requises, dont le lavage de mains et l'assainissement du milieu. Le docteur Louis Tchoulou est au micro d'Ezekiel Mousalia.
À ce jour, l'unique zone qui a notifié les cas en 2022, c'est la zone de santé de Réti. À la fin du mois de mars, on vient de notifier 25 cas avec 2 décès. Sur les 25 cas, il y a un cas qui était un peu avant et le 24, c'est ce que nous suivons maintenant. Donc, pratiquement 24 cas et 2 décès. Nous avons 22 malades qui sont sous traitement pour le moment et tous les 22 évoluent bien. Nous avons autour de chaque cas 1700 contacts. Le contact, nous le mettons sous chimio-prophylaxie, donc le soumet sous doxycycline pour qu'il ne puisse pas développer la maladie. Et la solution durable, c'est ce que s'est fait déjà du côté Mahagi, on appelle One Health, une santé. Donc c'est que nos équipes travaillent ensemble pour que déjà ces rongeurs ou ces animaux ne puissent pas amener leur pathologie parmi les humains ici.
Également dans l'actualité, la MONUSCO a financé dans le cadre des projets visant la réduction des violences communautaires la réhabilitation de la route allant de Kilia à Alungutpa dans le territoire de Beni. Cette route des dessertes agricoles dont les travaux sont évalués à 85 000 dollars américains permettra aux habitants d'évacuer leurs produits agricoles vers les centres de consommation. Les travaux permettent aussi à des ex-combattants, jeunes à risque et femmes vulnérables engagées dans le projet d'avoir des revenus pour constituer un capital suffisant afin de créer des activités génératrices des revenus. Blaise Makassi pour le reportage.
Longue de 9 km, cette route était devenue impraticable et rendait impossible l'évacuation des produits agricoles vers les centres de consommation, mais aussi l'intervention rapide de l'armée en cas d'attaque des groupes armés. Les travaux ont consisté en l'élargissement de la route, l'exécution des canalisations des eaux, le rechargement pour mettre fin aux bourbiers, la construction des ouvrages d'art, les ponts et les caniveaux. Selon Bernard Bayombe, superviseur de l'ONG Appel, point focal du projet, celui-ci a recouru essentiellement à la main-d'œuvre locale.
La population a été vraiment bénéficiaire de ces projets parce que la main-d'œuvre était constituée d'abord de la population locale. On a recruté les jeunes à risque, on a recruté aussi les ex-combattants.
De son côté, Kambale Kalwana, président de la société civile Noyau de Kilia, affirme que la réhabilitation de cette route améliorera le trafic et favorisera les échanges commerciaux.
Nous encourageons beaucoup notre partenaire, la MONUSCO. À travers cette route, nous venons de constater que peut-être nous aurons une sécurité durable. Pour nous, ça nous facilite aussi de ravitailler nos marchandises facilement.
Le projet a permis de réduire la violence des jeunes désœuvrés, tenter de rejoindre les groupes armés actifs dans les secteurs des Rwenzori, tout en améliorant l'accès aux forces de défense et de sécurité dans une zone difficilement accessible en véhicule.
À Mbujimayo, Kasaï-Oriental, la police nationale district Est vient de déposer hier mardi une plainte à l'auditorat militaire de garnison contre certains motocyclistes soupçonnés d'avoir saccagé un sous-commissariat de la PNC chez Bonzola. Le commandant du district Est de la PNC qui livre cette information s'insurge contre le comportement de ces motocyclistes qui ont passé à tabac hier mardi un élément de la police de circulation routière au croisement des avenues de l'évêché et cardinal Maloula dans la commune de Lankachi. Ces derniers avaient arrêté un motocycliste pour mauvais stationnement. S'en est suivi une altercation avec les autres motocyclistes, causant ainsi plusieurs dégâts matériels dans les rangs de la police nationale congolaise. Le colonel Henri Kibondo, commandant du district Est de la PNC, condamne ces actes de sabotage du commissariat non concerné par ces altercations. Le colonel Henri Kibondo s'exprime au micro des journalistes de la radio-télévision Fraternité Buenamuntu du diocèse de Mbujimayi.
Vers 8h30, on m'a appelé dire que les motards se sont révoltés contre la police de circulation routière qui est à la bifurcation entre l'avenue de l'université et l'avenue cathédrale. Et le temps qu'on s'apprête, on a trouvé, ils avaient déjà tabassé les agents qualifiés de la PC et ils s'attaquaient déjà au sous-siat Bonzola. Ils ont tout emporté, dossier, les meubles du sous-siat, ils ont cassé, ils ont fait libérer 4 prévenus qui étaient là au cachot. Un comportement vraiment que nous sommes en train de déplorer. C'est les motards à la tête, les chefs des associations. Ils ont commencé ces mouvements au niveau de Kanyanya. Ils se sont enflammés contre un monsieur qui les sensibilisait par rapport au paiement de taxes. Ils l'ont tabassé et ils ont quitté là-bas pour venir maintenant se décharger à la police des circulations routières de ce coin. J'ai saisi la justice militaire parce que quand ils sont venus, la garde qui est là était armée. Qu'est-ce que le sous-siat avait à faire dans cette histoire-là? Nous sommes dans un état de droit.
Contacté, le président provincial du syndicat des taxis-motos encourage la PNC à traduire en justice les fauteurs des troubles. Se référant à la loi congolaise, José Lufuluabo précise que l'infraction est individuelle. À Lubumbashi, une partie de communes de Kenya et de Kamalondo était en surchauffe hier mardi. Les jeunes de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, parti cher à feu Kyungu Akumwanza, protestaient contre la reconnaissance par le secrétariat général de l'intérieur de Bertin Kanunu comme président du parti en lieu et place de Jean Longangue. Plusieurs dégâts ont été enregistrés. Jean Gandou nous en parle.
Parti de la commune de Kenya où se trouve le siège de leur parti politique, ces jeunes ont barricadé plusieurs voies et incendié des pneus. Ils réclamaient la réhabilitation de leur président Jean Longangue. Plusieurs maisons commerciales ont fermé. D'autres ont tout simplement été pillées. Il s'agit notamment des alimentations, des pharmacies et des boutiques d'habillement, des kiosques et autres. À l'arrivée des éléments de la police pour établir l'ordre, il y a eu jet de projectiles de la part des manifestants et la police a fait usage de gaz lacrymogène et des balles réelles. D'après certaines sources, il y aurait 2 personnes tuées. La police, pour sa part, établit le bilan d'une personne blessée par balle à l'épaule gauche et des blessés légers. Dans la foulée, elle indique qu'elle a mis la main sur une 30aine de personnes. Après loterie, seuls 19 sont restés aux arrêts. La plupart sont ceux qui fouillaient avec des biens pillés, indique la police. Et ces personnes sont détenues au groupe des recherches et investigations de la police. Et nous apprenons que le secrétaire général à l'intérieur est revenu sur sa décision et a signé un autre document reconnaissant Jean Longangue comme le président de l'UNAFEC jusqu'à l'organisation du congrès du parti. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au Kasaï, le ministère national de la jeunesse, avec l'appui du bureau conjoint des Nations Unies sur le droit de l'homme, a organisé à Chikapa des rencontres autour de la gouvernance locale. Ces activités étalées sur 6 jours, clôturées hier mardi, ont été initiées dans le cadre du projet sur la gouvernance participative autour de la résolution 2250 du Conseil de sécurité. Cette résolution s'appuie sur la jeunesse, la paix et la sécurité. À en croire le rapporteur du secrétariat exécutif national de cette résolution au ministère de la jeunesse, le souci est d'encourager les jeunes à développer le leadership au niveau local. Eddie Have l'a dit à François Kadima.
Notre présence particulière, c'était pour partager un certain nombre d'informations avec les leaders des jeunes au niveau local par rapport aux instruments juridiques protégeant ces jeunes, par rapport au renforcement sur le leadership, au niveau presque local. Et nous sommes venus partager avec eux un certain nombre d'informations par rapport à ce qui se fait au niveau de la capitale d'où nous venons, mais aussi essayer de voir comment nous allons tisser les liens de collaboration. Nous avons recueilli un certain nombre d'informations près de ces jeunes-là que nous allons transmettre à l'autorité provinciale dans laquelle les jeunes ont retenu un certain nombre de défis et des opportunités qu'ils voudraient partager avec le gouverneur de province, notamment la mise sur pied urgemment d'un conseil provincial de la jeunesse qui est un cadre fêtier à travers lequel les jeunes continueront à collaborer avec le gouvernement provincial.
Actualité internationale.
Une campagne de nettoyage ethnique dans le Tigré occidental en Éthiopie, c'est ce qu'Amnesty International et Human Rights Watch dénoncent dans un rapport conjoint rendu public ce mercredi. Zone administrative contestée sous autorité tigréenne depuis les années 90, le Tigré occidental est passé sous le contrôle des forces de défense nationale éthiopienne et des forces et milices alliées de la région d'Amara dans les deux semaines qui ont suivi le déclenchement du conflit au Tigré en novembre 2020.
L'invité.
Clôture hier mardi à l'université de Lubumbashi du colloque sur les 7 ans d'existence de la Cour constitutionnelle. Plusieurs constitutionnalistes du pays y ont pris part. Pour le professeur Jacques Joly, l'un des orateurs, au cours des 7 ans, la Cour a rendu 2000 arrêts, mais beaucoup reste à faire pour la cristallisation de l'état de droit. Suivez.
Professeur Jacques Njoli, bonjour.
Bonjour, monsieur Jean Gandou.
7 ans après, que peut-on dire de la Cour constitutionnelle?
7 ans après, il faut se féliciter que la Cour ait été installée. La loi fondamentale de 1960 prévoyait une Cour constitutionnelle. Elle n'était pas installée en 64, en 67. Et voilà que la Constitution du 18 février, après plusieurs moments d'hésitation, parce que la Constitution est entrée en vigueur en 2006, mais il a fallu attendre pratiquement 7 ans, c'est-à-dire en 2013, pour que la loi organique sur la Cour soit adoptée et promulgué, et ce n'est qu'en 2015, n'est-ce pas, que la Cour commençait son travail. Et là, nous venons de faire 7 ans. 7 ans, ce n'est pas beaucoup, mais c'est aussi énorme. Et il était important que nous puissions nous retrouver pour faire le point. Et nous avons dit que la Cour a rendu énormément d'arrêts, 2000 arrêts, mais le chemin reste encore très lent parce que la jurisprudence, elle est si pas chahutée, mais elle est mitigée. On juge l'arbre par ses fruits, que ce soit en matière de contrôle des constitutionnalités, en matière d'interprétation, en matière de contentieux électoral ou dans les autres matières pénales, la jurisprudence de la Cour pose un certain nombre de problèmes. Et voilà pourquoi nous avons réfléchi et nous avons dit qu'il fallait trouver 2 pistes pour la révalorisation, pour la cristallisation de l'état de droit et de la démocratie qui sont, n'est-ce pas, les 2 pieds de notre architecture constitutionnelle.
Quels sont les écueils que vous avez constatés tout au long de ces 7 ans, les principaux tout au moins?
Les écueils, c'est d'abord au niveau de l'organisation. Il faut dire que jusqu'à présent, la Cour n'a pas encore des infrastructures autonomes. La Cour dispose d'un budget qui est discutable. Mais au-delà des questions matérielles, la vraie question, c'est la question que j'appellerais ontologique. L'émergence de l'homo juridicus congolais. La question du réflexe constitutionnel, aussi bien auprès de ce juge que des citoyens congolais. Nous avons vu une jurisprudence très très éloignée de l'esprit et de la lettre de la Constitution, de sorte que ces juges qui devaient, n'est-ce pas, être les garants de la Constitution, apparaît comme le lieu des désespérances constitutionnelles et la déconstitutionnalisation du jeu constitutionnel. Et c'est cette interpellation qui nous a amené à dire, mais pourquoi ces déphasages? Et la réponse, c'est que le juge constitutionnel, ontologiquement, a encore un chemin à faire, notamment en matière d'indépendance, notamment en matière de responsabilité, de sa conscience comme l'outil par excellence, l'homme par excellence qui doit construire l'état de droit et construire la démocratie.
Très bientôt, là, il y aura les élections de 2023, mais jusqu'à présent, la Cour constitutionnelle n'a pas encore fait en sorte que les gens aient davantage confiance en elle, notamment en matière de contentieux électoraux. Dites-nous, à ce stade, est-ce qu'il y a de quoi espérer?
Mais c'est ça, justement, la grande problématique. La Cour constitutionnelle, qui est appelée à assurer l'intégrité du vote, à asseoir la crédibilité des élections. Parce que vous savez, la CENI n'est publique que des résultats provisoires. C'est la Cour qui, en définitive, dit les résultats définitifs. C'est la Cour qui garantit la régularité du processus électoral. Or, les 3 cycles électoraux ont montré qu'il y a énormément de limites. Ces limites On peut les situer à plusieurs niveaux. D'abord au niveau de éléments pré-électoraux, mais au niveau du contentieux, la Cour doit faire une vraie révolution constitutionnelle ou culturelle pour qu'elle puisse, n'est-ce pas, mériter la confiance des Congolais.
Est-ce qu'il y a lieu d'amender certains textes qui régissent la Cour constitutionnelle?
Il y a débat. Il y a certaines personnes qui parlaient de la nécessité d'avoir un double degré de juridiction au regard de ce qui est arrivé sur la question des erreurs matérielles. Mais que ce soit un juge ou une juridiction à double degré en matière électorale, ça ne change pas la question de l'intégrité du juge électoral lui-même. C'est l'homme qui est au cœur de cette histoire et autour de cet homme, il y a toute une organisation, tout un fonctionnement, toute une série de matériels qu'il faut mettre à la disposition, n'est-ce pas, du juge.
Par rapport au personnel, il y a de moins en moins de femmes au niveau de la Cour et ça a été évoqué ici. Comment résoudre cette question?
Déjà, la première composition de la Cour ne comprenait pas une femme, ce qui était une violation flagrante au niveau de la Cour. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une femme, mais il faut arriver à trouver, parce qu'il y en existe, des femmes compétentes, des femmes intègres pour, n'est-ce pas, aller renforcer la Cour.
Je vous remercie, professeur.
Merci.
Professeur Jacques Ndjoli, constitutionnaliste, y répondait aux questions de Jean Gandou. Ainsi s'achève ce journal, coordonné par Noël Alouzi Toukabambi et mis en onde par Alain Goy. Merci à vous, chers auditeurs, de l'avoir suivi.